Après le dîner, les époux Michelet se rendirent sur la terrasse. Les soirées étaient encore tièdes. Dans la paix du soir, les bruits de la ville parvenaient, aussi reposants que le silence. La lune semblait absolument d'argent. Derrière les buissons, tout près de la grille d'entrée, on apercevait deux taches blanches et rectangulaires. C'étaient les murs du garage que l'entrepreneur venait de faire construire. Dans la salle à manger éclairée, on entendait, par la fenêtre ouverte, Madeleine desservir. « Mais comment la petite a-t-elle cassé le carreau ?» demanda l'entrepreneur. « Je te l'ai déjà dit, avec un caillou. »« Tu n'étais donc pas là ?» Je ne peux tout de même pas rester à côté des enfants toute la journée. J'ai mes occupations. Il faut que je fasse tout ici. Tu ne voudrais pas, en rentrant de ton bureau, trouver la villa comme tu l'as quittée le matin. Madeleine ne fait rien, alors ? Elle rêve, je ne sais à quoi, mais elle rêve. Je dois tout lui dire, tout lui montrer. Et le lendemain, elle ne se souvient plus de rien. Antoinette, depuis qu'elle habitait Neuilly, se plaignait continuellement, non pas qu'elle eût tellement de raisons de le faire, mais parce qu'elle craignait que l'on ne pensât qu'elle se réjouissait d'être mariée. Un reste de pudeur l'empêchait, en toutes circonstances, de montrer ses sentiments. Soudain, la sonnette tinta. « Qui cela peut-il être ? » demanda Jean surpris. « Marigny, peut-être ? » Antoinette appelait ainsi un de leurs voisins, qui, ayant rencontré un jour son mari à Paris, l'avait entraîné au théâtre Marigny. Mado allait ouvrir, fit-elle en gagnant, accompagnée de Jean, le salon. Quelques instants après, la bonne introduisait Madame Auriol, cette voisine mystérieuse de qui, tant de fois, l'entrepreneur s'était entretenu, soit avec sa femme, soit avec M. Dossé. De son nom de jeune fille, Madame Auriol s'appelait Edith Pennington. Fille d'un gros armateur de Boulogne-sur-Mer, elle avait vécu en cette ville jusqu'à l'âge de 20 ans. John Pennington, son père, venu en France par amour de ce pays, avait été un homme assez étrange. Dans les milieux de pêcheurs, on l'avait appelé le gros Pennington ou le père Pennington. Veuf très jeune, il avait vécu avec ses deux filles, Edith et Mary, cette dernière était l'aînée, dans une propriété isolée sur les dunes nommée « The Boat », est située au bord de la mer, tout près de Sainte-Cécile, à l'endroit même où quelques hommes d'affaires qui avaient projeté de créer une ville d'eau avaient dû abandonner leur dessein à la suite d'un violent raz-de-marée qui avait complètement démoli l'hôtel de la plage et, de ce fait, jeté sur cette partie de la côte un discrédit dont elle ne s'est pas encore relevée. Sa seule passion avait été de faire le bien. On le rencontrait alors dans les ruelles du port, vêtu comme un pêcheur, sur son gros visage, qui avait quelque chose du pasteur et du bon vivant, rasé, le dos d'une largeur extraordinaire, mais voûté. Devant les pas de porte, où des enfants étaient assis, il s'arrêtait et, avec un bon rire, leur demandait « Comment vas-tu, petit sauvage? Et toi, grand pêcheur ?» Si la porte était entr'ouverte, il introduisait sa canne dans la pièce et l'agitait jusqu'à ce qu'on vînt. Il interrogeait alors le père. « Tu travailles ?» « Ils sont beaux, tes petits. La mer est là, hein ?» Puis il s'éloignait lentement pour recommencer plus loin le même manège. Il avait fait construire à Camier un refuge pour les orphelins. Ils vivaient là comme des boy scouts, vêtus de kaki, partant deux fois par semaine pour de longues excursions. En vieillissant, il était arrivé à ne plus pouvoir tirer d'argent de ses expéditions en Islande et à Terre-Neuve. À l'époque des grands départs, il confiait ses 60 voiliers aux pêcheurs. À leur retour, car son goût était d'arbitrer, le produit de la vente de la pêche était chaque fois réparti par lui, déduction faite des frais, de l'amortissement des bateaux, des assurances, des œuvres de bienfaisance dont il assumait la charge. Dans sa propriété, à l'entrée, il avait fait construire un petit chalet où se trouvait un service des plus compliqués de comptabilité. Il y avait là deux employés qui traitaient M. Pennington de fou, des dactylos qui s'esclaffaient dès qu'il avait tourné le dos. Jamais il ne s'en rendit compte. Ne pouvait-on se retenir de rire devant lui, qu'il riait également, croyant qu'il s'agissait d'une plaisanterie qu'il n'avait pas comprise. À sa mort, la haine des armateurs rivaux, les complications sans nombre de toutes ces organisations, les œuvres philanthropiques dont il portait tout le poids, engloutirent d'un seul coup sa fortune. Le refuge de Camier, qui abritait près de 200 orphelins, se vit, à lui seul, grâce surtout au subit intérêt que lui témoignèrent les autres armateurs, doté d'un capital de 10 millions. Edith avait alors 21 ans. Sa sœur Mary, qui venait de se marier, habitait Paris. Elle vint se réfugier chez cette dernière. Le mari de sa sœur appartenait à une famille nombreuse, mais il n'y avait aucun lien entre les membres. Le chef de cette famille, M. Auriol, était un joyeux vivant. Ses quatre fils, Hugues, Marc, André et Germain, il les avait élevés dans la liberté la plus complète. Parti de rien et arrivé à une importante situation, il était directeur d'une grande maison de commerce, il leur répéta souvent « Vous êtes des hommes, faites ce que vous voulez, jamais vous ne connaîtrez les maux que j'ai endurés. » Et il ajoutait en aparté « Ils sont nés sous une bonne étoile, au mauvais moment, ils trouveront toujours le toit paternel. Les Auriol sont à présent tranquilles pour trois générations. » C'était deux ans après que la guerre devait éclater. La plupart du temps, le hasard réunissait cette famille. Aussi Germain, le mari de la sœur d'Edith, voyait-il rarement ses frères. Sa qualité d'aîné lui avait valu d'être en quelque sorte l'associé de son père. Hugues, lui, était parti pour le Maroc dans le but de faire de l'élevage. André, qui s'était découvert tout seul la vocation de la musique, suivait des cours et rêvait de devenir un virtuose. Marc s'était jeté dans la mécanique. Chacun de ces jeunes gens recevait la même mensualité, sauf Germain, intéressé aux affaires de son père et, en outre, marié. Quant à la mère, petite bourgeoise divorcée d'un premier mari, elle avait trouvé le moyen de considérer la situation inespérée que lui avait faite M. Auriol comme au-dessous de ce qui lui était dû. M. Pennington avait connu la famille Auriol à Paris-Plage, alors à peine construit, où celle-ci louait chaque année deux villas, l'une pour les garçons, l'autre pour les parents. À la fin des vacances, la première était méconnaissable. Des portes, des cloisons avaient été enlevées, des plafonds percés. De telles réparations étaient exigées du propriétaire que M. Auriol pénétrait alors dans cette villa pour la première fois. M. Pennington, comme la plupart des étrangers de race anglo-saxonne, éprouvait une grande sympathie, une attitude même bizarre, pour les Français joviaux. Il en éprouva une pour M. Auriol. Une fois, pendant une semaine peut-être, il avait été en contact avec un méridional semblable à tous les méridionaux, et ne sortant en quoi que ce soit de l'ordinaire. Depuis cette date jusqu'à la fin de sa vie, il ne se passa pour ainsi dire pas de semaine que M. Pennington ne parlât de ce méridional, qu'il ne citât des remarques que celui-ci avait faites, qu'il ne rît à ses souvenirs. Il y avait un mois qu'Edith était à Paris, lorsqu'elle se trouva en présence de Marc, dont elle se souvenait à peine, mais avec qui elle se rappelait pourtant avoir joué alors qu'elle était âgée de 15 ou 16 ans. Ce jeune homme était une espèce de fou, les cheveux toujours en désordre, vêtu n'importe comment, tantôt avec les complets de ses frères, tantôt avec des habits vieux de plusieurs années, qu'il découvrait dans quelques placards. Possesseur d'un sidecar et de deux bicyclettes, il passait ses journées à mettre le guidon de l'une à l'autre, à réparer le moteur de son sidecar et à parcourir les routes de la grande banlieue. Il avait alors 26 ans. Il rêvait de devenir aviateur. Une foule de camarades l'entouraient, avec lesquels il partait souvent pour Rouen, Dieppe ou Chartres, disparaissant une semaine, ne donnant plus signe d'existence. L'hiver, il disputait des épreuves de ski à Chamonix. D'un de ces concours, on le ramena un matin la cheville cassée. À son chevet, ce fut une véritable procession. Dans cette procession se trouva, un après-midi, Edith. Il était immobilisé. Ce fut une des raisons qui fit qu'il se mit à l'aimer. Edith, au contraire, était le calme même. Toute sa jeunesse, elle avait vu des malades, des enfants abandonnés, des solliciteurs frapper à la porte de son père. À ce spectacle, elle avait acquis quelque chose de maternel, de compatissant, qui trouvait, au contact de ce jeune homme, plus impulsif, plus bruyant, plus hardi qu'un enfant, à se manifester. La vie, la joie, l'ardeur qui se dégageait de lui la charmèrent. Il avait beau la quitter des jours sans donner de ses nouvelles, elle ne lui faisait à son retour aucun reproche. Plus il se dépensait, plus elle l'aimait. Au début, elle le suivit dans ses randonnées, mais comme il arrivait presque toujours qu'il se perdait en cours de route et qu'elle était obligée de rentrer seule, la première fois, sans argent sur elle, elle avait dû télégraphier à Paris. Elle refusa par la suite, chaque fois qu'il lui proposait une expédition, de l'accompagner. « Allez tout seul, » disait-elle en souriant. « Non, je ne vous suivrai pas. Vous allez encore me perdre je ne sais où. » Et quand elle le revoyait, poussiéreux, les cheveux emmêlés par le vent, le visage couperosé, elle était prise d'attendrissement. Un an après le mariage, la petite Dina naquit. On était en 1914. Tous deux habitaient un appartement proche de la place Pereire. Mais l'enfant ne réfréna en rien le besoin de mouvement de Marc. Quand il la voyait, il la lançait en l'air, la rattrapait au vol ainsi qu'une balle, cependant que la mère le suppliait de cesser, puis, dès que Dina pleurait, il se sauvait. À la déclaration de guerre, Marc, comme ses frères, fut mobilisé. 6 mois après, il passait dans l'aviation. Edith ne vivait plus. Elle avait maigri. Ses journées, elle les employait à écrire à son mari. L'amour qu'elle avait pour lui était tel qu'elle répétait sans cesse à sa sœur Mairée, chez qui elle s'était installée en l'absence des deux hommes, que s'il lui arrivait quelque chose, elle se donnerait la mort. Dans les premières semaines de 1916, les deux femmes apprirent coup sur coup que Marc avait été tué au cours d'un combat aérien et que Germain avait été fait prisonnier. 1 mois après, M. Auriol père mourait subitement chez lui, tout seul, entouré de quelques domestiques, Mme Auriol étant partie pour le midi, non sans avoir déclaré auparavant que, lorsqu'on en avait les moyens, il était ridicule de rester à Paris où l'on courait tant de risques. Edith changea en quelques jours. Elle pleurait continuellement. Elle parlait toujours de se tuer en serrant contre elle sa petite fille. Des heures entières, elle restait devant une photographie d'amateur représentant Marc en manche de chemise, courbé en deux et riant aux éclats. Les années passèrent, Dina grandit, mais la mère demeurait inconsolable. Elle avait reporté toute sa tendresse sur sa fille, qu'elle fatiguait par des conversations interminables, obligeant l'enfant, qui eût préféré jouer, à rester des heures assise sur elle. Quant à Mairée, elle n'avait qu'une préoccupation, envoyer des colis au camp de Darmstadt, où Germain était prisonnier, et savoir s'ils arrivaient à destination. Parfois, au cours d'une permission, un des frères rendait visite aux deux sœurs, mais comme à des étrangers, prévenant dès la porte qu'il était très pressé, refusant tout ce qu'on pouvait lui offrir de peur que cela ne prît du temps, se sauvant au bout d'une heure. L'armistice vint enfin. 2 mois après, le 15 janvier 1919, un homme maigri, hagard, frappa à la porte de l'appartement des deux femmes. C'était Germain. Il avait tellement changé que Mairée le regarda avec terreur. Ce ne fut qu'au bout de quelques secondes qu'elle se jeta dans ses bras. Il la serra contre lui sans l'embrasser et se laissa tomber sur une chaise. Cet homme qui avait été jeune, actif, heureux, n'était plus qu'une loque. En parlant, il répétait les mêmes mots, s'embrouillait, ne parvenait pas à finir ses phrases, balbutiait des monosyllabes et semblait affecté de zézément. Pendant sa captivité, il avait eu 6 maladies, parmi lesquelles la fièvre typhoïde, la dysenterie et une bronchopneumonie dont il n'était pas encore remis. Ses doigts étaient sans chair. Mairée et Edith voulurent le restaurer. Il ne pouvait manger. Dès qu'il absorbait quoi que ce fût, il rendait. D'avoir été nourri pendant près de 3 ans de rutabaga, de lard avarié, de pain de son, son estomac s'était peu à peu fermé, rétréci, si bien qu'à présent il ne supportait rien. Les deux femmes le couchèrent. À peine étendu, il fut pris d'un vertige. Il se mit à trembler. Une sueur qui faisait, sur son front, des gouttes aussi grosses que celles de pluie, l'inonda des pieds à la tête. Pendant 3 ans, il avait tout supporté, le froid, la faim, les maladies, et juste à la minute où il se retrouvait parmi les siens, ses forces l'abandonnaient. Quelques mois plus tard, il eut un léger mieux dans sa santé. Ses épaules étaient toujours voûtées. Quand il se levait le matin, il marchait un long moment courbé en deux. Ce n'était qu'au bout d'une demi-heure qu'il parvenait à se redresser. Mais l'appétit lui revenait, et chaque jour, après le déjeuner, il sortait un peu. Les deux sœurs ne le quittaient pas. Edith, dans sa douleur, trouvait chaque jour des forces nouvelles à se dévouer. Mais Germain, en dépit de la tendresse et des soins dont il était entouré, demeurait taciturne. Il n'adressait presque jamais la parole à sa femme, lui répondait à peine lorsqu'elle lui posait une question. Quelquefois, il s'amusait avec la petite Dina, mais il suffisait qu'une des deux sœurs parût pour qu'il cessât. Quoi qu'on fît pour lui, il était mécontent. Rien n'était bien. Tout était, selon lui, à l'abandon. Dans ses 3 ans de captivité, il avait eu un besoin d'ordre extraordinaire. Dans les nuits sans sommeil de Darmstadt, il avait rêvé d'un bonheur dont la grandeur eût, en quelque sorte, motivé les souffrances qu'il endurait. 1 an après son retour, il paraissait physiquement rétabli. Il avait pris la direction de la maison de commerce de son père. Pour lui, plus rien ne comptait à présent que le travail et le gain. Il ne rentrait plus aux heures des repas et chaque jour devenait plus violent et plus exigeant. Des scènes commençaient à éclater entre les deux époux, à la suite desquelles Edith proposait toujours de partir, de louer un petit appartement et de vivre seule avec sa fille. Mais Mary et Germain parfois la retenaient. Une semaine s'écoulait, puis une scène plus violente encore éclatait. On eût dit que Germain se vengeait sur les siens de ce qu'il avait enduré. Il n'avait plus aucun ami et ne voulait voir personne. Sa captivité l'avait rendu hargneux, susceptible et emporté. Bien qu'il pût vaquer à ses occupations, sa santé était loin d'être satisfaisante. Il ne s'en souciait pas. À 7 heures du matin, il était déjà levé et peu après, il gagnait son bureau, attentif seulement aux résultats de ses diverses spéculations. Il faut être heureux et bien portant pour gagner au jeu. Le franc baissait, il achetait des francs. Les valeurs étrangères baissaient, il achetait des valeurs étrangères. Une sorte de rage faisait qu'il ne pouvait supporter la moindre perte. Il s'entêtait, il perdait davantage. Le soir, lorsqu'il rentrait, il accusait les deux sœurs d'être la cause de ses pertes. « Évidemment, cela vous est égal que je gagne ou que je perde. Si vous étiez moralement avec moi, si vous me souteniez de vos pensées, je gagnerais. » Un soir, une scène, plus violente encore que toutes celles qui avaient précédé, éclata. Germain, à la suite d'une spéculation malheureuse, était hors de lui. Mireille lui reprocha de jouer. Il n'en fallut pas davantage pour qu'il n'eût plus le contrôle de soi. Il avait tout perdu, sa jeunesse, sa santé, sa fortune, et elle, cette femme qui lui reprochait de jouer, elle était intacte. Il s'approcha de Mireille. Envahi soudain par une colère inouïe, il la frappa, et perdant presque la raison, se mit à crier, à courir dans l'appartement. Mary, qui ne s'était pas défendue, qui avait accepté les coups comme une délivrance, pleurait. Edith serrait contre elle sa fillette, alors âgée de 12 ans, qui, terrifiée, regardait la scène sans comprendre. Quelques minutes s'écoulèrent, durant lesquelles les deux sœurs redoutèrent, elles ne savaient quelle horrible fin. Puis Germain tomba dans un état de prostration voisin de l'inconscience. Il s'était assis dans un fauteuil et ne bougeait plus. Sa femme, qui s'était ressaisie, appliqua sur son front une serviette mouillée. La fraîcheur ne le ranima pas. Elle le déshabilla et le couvrit chaudement. Comme le jour où il était arrivé, après 3 ans de captivité, il se mit à trembler des pieds à la tête, à claquer des dents, à transpirer. Soudain, il eut un sursaut si brusque que Mary, croyant qu'il allait la frapper de nouveau, poussa un cri strident. Pendant ce temps, Edith avait gagné sa chambre et, comme une folle, avec une précipitation qui la retardait, elle jeta pêle-mêle tous ses effets dans sa malle. Le soir même, elle couchait avec sa fille à l'hôtel. Dans les jours qui suivirent, elle se mit à la recherche d'un pavillon afin que Dina, dont la santé fragile l'inquiétait, pût, sitôt levée, être à l'air. Finalement, elle retint celui de M. Dossé, dont l'isolement lui plut.